Je souris avec ce chant parce que vous pouvez vous asseoir. J'interviendrai peut-être avec d'autres chants dans le courant de la prédication, mais ce chant-là, on était invité avec plusieurs artistes en Afrique, c'était il y a 10 ans, au Bénin, à Cotonou. Il y a des gens qui sont déjà allés en Afrique ? Levez la main. C'est la louange là-bas, ça peut durer 2h30. Hein. Et 2h30, parfois même avec le même chant. Et notamment celui qu'on vient de chanter là, « Je te donne mon cœur ». On avait dû se lever à 5h du matin parce qu'ils prient aussi là-bas. Ce n'est pas qu'on ne prie pas ici, mais les Asiatiques, quand ils se mettent à prier à 3h du matin, il y a intérêt à ne pas être dans le même dortoir parce que ça fait du bruit. Les Africains, ils se lèvent, c'est plus tempo. Et moi, j'étais là. Ah donc j'étais déjà sorti du lit, ce qui est proche du miracle à 5h du matin, et j'étais dans une assemblée comme celle-là, à ciel ouvert pratiquement, il y avait juste un toit en tôle ondulée, avec la terre battue, et le prédicateur, enfin le pasteur de l'église, qui n'était pas vraiment un chanteur né, commence « Je te donne mon cœur !» Et puis on chante, et 10 minutes c'est long déjà. Parce que quand vous dites à Dieu « Je te donne mon cœur », que vous connaissez le chant, bon, ça va. Mais au bout de 10 minutes, bon, je commençais à dire à Dieu, voilà, qu'est-ce qui me reste que je puisse encore te donner, quoi. Après une heure de ce chant, ah, il était dedans, lui, hein, et le peuple suivait, etc. Et moi, je me suis retrouvé dans une situation où j'avais scanné toute ma vie, mon appart, ma voiture, tous mes biens matériels, mon futur, mes ambitions, puis des couplets comme ça à vide, j'avais plus rien à dire. Tout d'un coup, il me revenait un truc. Et à un moment donné, il ne me restait plus que Jésus. C'est tout ce qui me restait. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Je ne peux pas donner Jésus à Jésus. Mais je me suis dit, peut-être que je peux quand même restituer à Dieu le Père le don qu'il m'a fait. Et ça m'a coûté 3 couplets, 2 strophes. Parce que je me dis, si j'enlève ça de ma vie, il ne me reste plus rien. J'ai déjà tout ôté. Et il y a quelque chose que j'ai compris de la louange, qui est de redonner à Dieu ce qu'il a investi en nous. Et ce qu'il a investi en nous, c'est Christ. Et à un moment donné, pendant quelques secondes, j'ai été dépouillé, mais à la seconde même où j'ai dit, Seigneur, même ça, prends-le. Tout de suite, je l'ai reçu, mais renouvelé. Tout de suite, je l'ai reçu, mais renouvelé. Souvent, on veut garder quelque chose qui a été une bénédiction dans notre vie. Alors évidemment, Jésus, je ne vous dis pas de le faire, hein, parce que je ne me remettrai pas dans cette situation. Je ne suis pas sûr que ce soit même cohérent, mais je sais ce que j'ai vécu par contre sur le fait que Dieu investit dans notre vie quelque chose et qu'il attend une récolte. C'est un vendangeur, notre Dieu. Et si on considère notre vie comme un don de la part de Dieu, se dépouiller de sa propre vie, c'est ça aussi qu'il faut faire. Pas tellement pour plaire à Dieu dans une notion médiévale et sacrificielle, hein, même si ça existe aussi cet aspect-là, mais la donner parce qu'en retour, il nous donne quelque chose de renouvelé. On ne peut pas vraiment être renouvelé, je vais parler de ça ce matin, sans abandonner quelque chose qui a été un repère dans notre vie, même spirituel. Il y a souvent des gens qui disent, ben justement par rapport à ta bienveillance, en disant, oh, chanter ce chant parce que je l'avais à mon mariage, ou chanter ce chant-là parce que c'était lors de mon baptême, j'avais demandé ce chant, etc. etc. Et ils veulent toujours le même. Et c'est très bien, il y a une place pour ça. Mais il y a un moment donné, Dieu, et c'est une saison par laquelle je suis passé, c'est pour ça que ce que je vais partager ce matin est entre le témoignage et la prédication. Et en fait, c'est ces deux pôles qui vont être utiles dans les saisons qui viennent, j'en suis convaincu, parce que le monde a besoin de voir des gens renouvelés. Satan peut faire beaucoup de choses. Il peut copier à peu près tout. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est créer quelque chose de neuf. Voici, Dieu fait quelque chose de neuf. Il dit et la chose arrive. C'est quand même extraordinaire. Il a dit de moi quelque chose qui a transformé ma vie. Est-ce que c'est vrai pour vous? Il a dit quelque chose de moi. Je l'ai écouté. Le témoignage de la parole est une force en elle-même. Et la force de mon témoignage en est une aussi. Il reste, à un moment, quand on a été dépouillé par une saison difficile, bénissez Dieu pour les temps d'épreuve. Il n'y a rien de plus salutaire pour nous faire quitter des repères qu'on pensait inamovibles. C'est vrai pour les individus, c'est vrai pour les couples, c'est vrai pour les églises, c'est vrai pour les nations. On a notre président, enfin je dis notre, je suis suisse, mais quelque part je suis français d'adoption, qui disait au début du confinement, il faut se réinventer. Et je me suis dit, heureusement, moi j'ai pas attendu qu'Emmanuel Macron me le dise. Emmanuel, Dieu avec moi, ça je veux bien. Et j'ai préparé ce chemin-là depuis longtemps. Je suis arrivé dans cette église à Brumath, qui est au nord-ouest de Strasbourg, avec, je ne les connaissais pas, mais je connaissais un musicien de l'équipe de louanges qui se trouvait être timbalier au Philharmonique de Strasbourg. Donc c'est un bon musicien, il sait lire la musique, moi pas, mais il avait besoin de textes. L'union fait la force. Et on a discuté, c'était à Paris, je l'avais donné rendez-vous à la brasserie Georges V. Alors ceux qui sont déjà allés, j'ai demandé qui était allé en Afrique, qui est allé à Paris. Voilà, il y a les Champs-Élysées, il y a une petite brasserie qui s'appelle le Georges V, au métro Georges V. Et en fait, quand je lui ai dit rendez-vous au Georges V, lui, il pensait que c'était l'hôtel Georges V, qui est un 5 étoiles à quelques mètres de là. Et il m'attendait au bar en disant, dis donc, Thierry Ostrini, rendez-vous au Georges V, c'est le haut de gamme. Et on s'est attendu pendant une demi-heure, finalement, on s'est appelé, etc. J'y étais où ? Ben, au Georges V. Il dit non, moi j'y suis au Georges V, je ne te vois pas. C'est des rendez-vous manqués, ça arrive avec Dieu aussi, il nous attend quelque part et nous on l'attend ailleurs. Mais tout ça pour dire qu'avec ce timbalier au Philharmonique de Strasbourg, on a discuté sur l'église et sur la louange pendant tout le repas. À la brasserie, du coup. Et à la fin, il dit, il faut qu'on se revoie ce soir. Il avait un concert à Radio France. Et on s'est revus à 22h30 après son spectacle. Et on a parlé de ça, on a parlé de l'église, etc. Et il est rentré dans son église à Brumath. Moi, je savais dans ma tête, au revoir, bonne route, à bientôt. J'écrivais ses textes et tout. Et il m'a appelé 2 semaines plus tard. Il dit, écoute, j'ai parlé de notre discussion aux anciens de l'église. Et il y avait... pendant un laps de temps très précis dans notre église, un gars du sud de la France qui avait grandi dans une église plutôt charismatique, prophétique, et donc qui, lui, recevait en direct de Dieu. Alors il avait dit aux anciens, écoutez, moi j'ai reçu pour l'église qu'il fallait défricher un champ nouveau. Et les autres, ah ben oui, a priori, etc. Validé par le collège des anciens. Et en fait, il y a Denis Ridinger, il s'appelle, c'est un timbalier, venait de me rencontrer et il s'est dit ben, peut-être que la rencontre avec Thierry a quelque chose à voir avec l'église qui doit défricher un champ nouveau. Et donc il en parle à ce gars dans l'église qui n'est plus là d'ailleurs, entre temps il a déménagé. Et le gars se met à prier Dieu en disant est-ce que la venue de Thierry a à voir quelque chose avec défricher un champ nouveau. Et le Seigneur il dit oui, je ne sais pas comment ça se passe moi avec ça, moi, quand je prie Dieu je n'ai pas toujours des réponses et encore moins que l'accent marseillais. Et donc, me voilà embarqué avec une église qui a cette vision de défricher un champ nouveau. Vous allez comprendre le lien que je fais avec le fait d'être renouvelé et d'abandonner des repères. L'église devait entrer dans une phase où il s'agissait de défricher un champ nouveau. Dans la Bible, si vous voulez le chercher, c'est dans Osée. Hein, vous connaissez peut-être ce passage, « Défrichez-vous un champ nouveau ». En fait, Israël a adopté une attitude avec le Seigneur qui ne plaît pas à Dieu, donc il leur dit, défrichez-vous un champ nouveau, apprenez à semer avec justice pour récolter dans la compassion. En fait, c'est dans l'attitude que Dieu fait des reproches à Israël. L'attitude de cœur, c'est souvent ça, hein. Je ne sais pas pour l'Église, mais pour nos individus, quand Dieu me reprend moi, en général, qui me corrige comme un fils légitime, c'est par rapport à mon attitude de cœur. Arriver à identifier le mal quand on fait quelque chose de pas bien, c'est donner un peu à tout le monde. Il n'y a pas besoin vraiment du Saint-Esprit pour être convaincu de péché. D'ailleurs, c'est en étant convaincu de péché, avant de rencontrer Dieu, qu'en général, on se repent. Mais ça, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. Mais je veux dire, quand on fait quelque chose de travers, ou quand on a pris une direction qui n'est pas la bonne, comme chrétien, on a le Saint-Esprit qui nous convainc non seulement de péché, mais qui nous interpelle sur quelque chose qui est un vice de forme. Et il y a des choses qui peuvent apparaître comme des bonnes choses. Marthe, en l'occurrence, qui est en train d'être prêchée à l'église de Brumath, Marthe fait, au bout du compte, quelque chose de serviable. On prêche souvent dans l'église, hein, le service. On peut faire un service dans l'église et puis être à côté de la plaque parce qu'on a quitté l'endroit où on le fait pour le Seigneur. Ça m'est arrivé, moi, dans le ministère avec Exo, etc. Il y a un moment donné, quand vous êtes en train de servir, ou même après, et que vous avez perdu la joie du service, c'est pas tellement dans ce que vous faites que ça remet en question, c'est dans l'attitude de votre cœur. Amen. Donc j'arrive dans cette église, donc finalement j'ai quitté mon église à Paris pour aller dans cette église avec un tiers-temps, avec cette vision d'église, défrichez-vous un champ nouveau, et avec moi qui était associé à la vision. Et donc il y a une chose que je redoute encore 15 ans plus tard, c'est l'Assemblée Générale, où je dois faire un rapport d'activité, moi, pendant 5 minutes, je dois dire aux gens ce que j'ai fait, et quand je suis arrivé dans cette église il y a plus de 15 ans, je n'ai plus écrit un chant. Moi, je pensais que le Seigneur allait me donner des chants nouveaux, que voilà, psaume 40, verset 4, etc. Je vais en parler un peu tout à l'heure. Et que j'aurais des chants nouveaux à apporter à l'Église, parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Et ça, c'est aussi un des symptômes d'un changement qui s'opère, où Dieu va vous mettre dans une situation où ce que vous avez justement toujours fait ne fonctionne plus. Plus une ligne pendant 2 ans. Et moi, je devais faire mon rapport d'activité. Qu'est-ce que tu as fait l'année passée? J'avais envie de dire aux gens, c'est pas à moi de faire quelque chose, c'est à l'Église d'entrer dans la vision, parce que si moi je suis venu pour assister l'Église dans le fait de défricher un champ nouveau, si le champ ne se défriche pas, j'ai rien à faire. Et rien à faire, c'est peut-être justement le meilleur endroit pour se trouver au pied de Jésus, comme Marie, qui est en train de rien faire, mais ça m'a, c'est pas venu du jour au lendemain, hein. Parce qu'au rapport d'activité, vous savez, les Alsaciens, c'est, ils aiment le chocolat pratique. On engage ce gars à tiers temps. On engage une poule, il ne fait pas des œufs. Il y a un problème. Je ne fais pas bien l'accent, mais vous aurez compris qu'en l'occurrence, ceux qui sont en train de vous écouter à l'Assemblée Générale, c'est du style, bon, alors en une année, qu'est-ce que tu as fait? Et ce n'est pas que j'étais en train de rien faire, mais j'étais en train de rien produire. Et vous savez ce qu'on vous dit tout le temps, surtout quand on est artiste, c'est du style, alors c'est quoi les projets? T'as un nouvel album en tête? Rien. Et ça prend du temps avant de dire non, j'ai rien, parce que ça met mal à l'aise les gens. On est dans une société où il faut faire tout le temps. On s'affaire à beaucoup de choses, on en parlait par rapport au Shabbat, c'est pour ça que ça a un lien très concret, c'est de trouver du repos, parce que moi je me suis retrouvé sur, j'avais un transat chez moi, je me mettais le matin avec ma tasse de café et ma guitare, et puis j'attendais. Rien, en apparence, rien. Et pendant ce temps-là, j'attendais que les autres fassent des choses, l'église, etc. Et des fois, il ne se passe rien au niveau de ce que les autres font. J'attendais des coups de fil, rien ne s'est passé. Ma vie s'est effilochée, je n'étais plus dans le groupe EXO. Ça aussi, c'est important d'en parler. Quand on est dans un ministère, qu'on est sur scène et qu'on est identifié pour des gens qui font des choses bien, qui apportent, il y a des gens qui, les larmes aux yeux, viennent nous témoigner de ce qu'un chant a pu faire dans leur vie, mais ça ne va pas valoir grand-chose devant Dieu, qui, lorsqu'il vous a demandé de passer à autre chose, il s'agit d'abandonner et de quitter quelque chose, et c'est très pénible, parce que tout d'un coup, toute l'identité que vous êtes construit autour du service, autour du fait de plaire à Dieu, n'a plus vraiment le même poids, et on le sent ça. Il n'y a rien de pire que de continuer à faire quelque chose lorsqu'on sait que le Seigneur vous a dit stop. Mais ça prend du temps. Je prends souvent l'exemple de Samuel, que Dieu appelle Samuel. Qu'est-ce qu'il fait Samuel? Il fait ce qu'il a toujours fait. Il identifie qu'il est appelé, donc c'est forcément le prêtre qui l'appelle. Il va vers le prêtre, il dit non, je ne t'ai pas appelé, il va se recoucher. Ça se passe 3 fois de suite pour que même Élie comprenne que c'est Dieu qui est en train de parler à Samuel. Donc la prochaine fois que tu entends ton nom, dis, me voici, ton serviteur écoute. Ça se passe avec Élie aussi dans la grotte, dans la caverne, où à plusieurs reprises, il a un discours récurrent. J'ai déployé mon zèle pour toi. Je suis resté moi seul. C'est pas la réalité, mais c'est ce qu'il croit. Ça se passe avec Jacob qui croit que son fils est mort. Vous connaissez ce passage? C'est époustouflant quand on relit ça, de voir qu'il est tellement convaincu que son fils est mort parce que c'est l'information qu'on lui a restituée. Il est convaincu de ça, et quand ses autres fils viennent lui dire que Joseph est vivant et qu'il est en train d'opérer en Égypte, Jacob ne les crut pas. Et combien de fois ça nous arrive? Quelque chose de neuf, quelque chose dans le renouvellement de notre intelligence est en train de se produire, on ne l'entend pas ou on ne le croit pas. Et à un moment donné, c'est marqué que Jacob vit les chariots et son esprit se remit en vie. Il dit, il s'est levé, parce qu'il était assis. Il s'est levé, et le verset se poursuit en disant, et Israël se leva. Enfin, Israël, donc ça veut dire qu'au moment où vous êtes assis, passif, en train de ruminer des choses du passé, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient en train, c'est comme dans le frigo, hein, quand on... Moi, j'ai un citron, là, je viens souvent en Suisse, on a laissé un dans le frigo il y a 2 semaines. Ben, l'état du citron, tu n'as pas envie de le mettre dans ton thé. Il y a quelque chose qui est dans la vie qui est là pour être renouvelé. Il faut le consommer au moment où ça se passe, le citron. 2 semaines après, ça ne marche plus. L'analogie vaut ce qu'elle vaut. Ce que je veux dire par là, c'est que Jacob, tant qu'il n'est pas éveillé, c'est Jacob. Au moment où il se lève, son esprit se remit en vie, Israël se mit en route. Lorsqu'on est assis, qu'on est passif dans quelque chose, souvent c'est notre identité première, notre chair qui parle. À partir du moment où on croit, on se remet en vie et Israël se remit en route. Il y a quelque chose dans le renouvellement de notre intelligence qui nous dynamise. Donc quand moi je suis arrivé à l'église de Brumath, j'ai été dépouillé de pas mal de choses. Je vais vous lire quand même 2-3 passages. J'ai prévenu le pasteur en disant, voilà, hier on nous a présenté les 2 artistes en disant, c'est des originales. Et à la fin de la prédication, le gars a dit, oui, enfin il est monté sur scène et il a dit, voilà, on a eu une prédication un peu en arborescence. Et moi je préviens les gens, je dis, je fonctionne en étoile, mais à la fin du message, vous aurez compris quelque chose. Donc si ça vous paraît un peu éparpillé, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, je rassemble les billes et je chante un chant et ça va très bien. Alors, on va lire dans Ésaïe 12, au verset 2. Parfois, c'est le verset 3 dans certaines versions. Donc, il faut que je le retrouve. Le voilà. Ésaïe 12, au verset 2. Voici le Dieu fort. Il est ma délivrance. J'aurai confiance et je ne serai point effrayé, car l'Éternel est ma force et mon chant. D'autres versions disent le sujet de ma louange. Voici le Dieu fort et ma délivrance, j'aurai confiance, je ne serai point effrayé, car l'Éternel est ma force et mon chant. À l'époque où j'étais arrivé à Brumath, que j'avais rien écrit pendant 2 ans, je lisais ma Bible du coup, et j'avais la vue qui baissait un peu, donc je m'étais finalement acheté des lunettes à 2 euros dans certains magasins dont je ne citerai pas le nom. 2 euros 2 francs. Et j'ai pu recommencer à lire ces petites lettres qui sont au-dessus des mots. Vous avez ces versions où tout d'un coup, sur votre Bible, il y a le mot chant. En l'occurrence, il y avait un petit O, donc ça renvoie au bas de la page. Et en fait, c'est pour donner un peu l'étymologie de ce que les mots veulent dire. Il faut un autre contexte parfois pour comprendre. Et donc, le mot chant m'avait renvoyé à la suite de cette petite lettre que j'arrivais enfin à pouvoir relire. Au début de ma foi, je les voyais. Après, il y a eu un temps où je ne les voyais plus et je me suis remis à les voir. Ça s'appelle des lunettes. C'est tout simple. Et dans Genèse 43, 11, il est de nouveau question de ce mot qui se traduit du coup différemment au verset 11, Genèse 43, 11. Alors Israël, leur père, c'est un peu dans le contexte dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors Israël, leur père, leur dit, si cela est ainsi, faites ceci. Prenez dans vos vaisseaux, vos chariots, des choses les plus renommées du pays. D'autres versions disent des spécialités de la terre, des trucs renommés du pays. C'est le même mot que le mot chant. Alors évidemment, moi, comme je suis auteur-compositeur, quand je vois, j'ai chanté plusieurs chants de Paul Baloche, ceux qui connaissent Paul Baloche, c'est toujours les nations, les anges, je reconnais son style. Ouvre les yeux de mon cœur, je connais la mélodie. Quand c'est Chris Christensen que je connais par cœur, dès que je vois une ligne, je dis « Ah ben, ça, c'est du Chris Christensen. » Oui, il fait la même chose avec mes chants à moi. On reconnaît la façon qu'on a de rire, la façon qu'on a de s'exprimer, la façon qu'on a de bouger. Il y a quelque chose, et c'est là-dessus que je veux insister, de spécifique dans notre vie. Et cette chose spécifique, c'est ce que Dieu a investi en vous. Il vous a créé tous, on le sait, hein, avant la fondation du monde, avant que vous ne soyez conçus dans le ventre de votre mère, et il vous a créé pour un propos. Et combien d'entre nous cherchons toujours, c'est quoi la vision pour ma vie? Qu'est-ce que je fais là? Vous imaginez bien qu'en 2 ans à l'église de Brumath, j'ai eu le temps de me dire sans écrire, qu'est-ce que je fais là, moi? Il y a une vision de l'église, le Seigneur, elle a dit que, et moi je suis associé à ça, Et puis, il n'y a rien qui se passe en apparence. Et j'écrivais rien. Je me dis, qu'est-ce que je fais là? On cherche la vision. Mais en fait, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que Dieu investit quelque chose dans notre vie parce qu'il attend ce que j'appelle maintenant un retour sur investissement. Il y a un moment donné, le jugement, c'est on va se présenter devant Dieu, nous. Qu'est-ce qu'on va dire? On va sûrement aligner tout ce qu'on a fait. En fait, je pense que ce qu'attend le Seigneur, c'est comment votre caractère, votre personnalité, vos dons, vos talents ont fructifié au contact de Jésus-Christ. Ça ne se passe pas sans lui. Il y a des gens qui ont des talents dans le monde, hein, qui ne sont pas croyants, qu'ils développent. Ça ne remplacera pas quelqu'un qui fait la même chose en Christ. Le Seigneur est ma force et la spécialité de ma terre. En quoi je suis spécifique? Et ce n'est pas toujours impressionnant et ce n'est pas toujours sur scène, c'est même rarement impressionnant et c'est rarement sur scène. Par contre, si ça impressionne quelqu'un, entre guillemets, c'est Dieu qui dira du légionnaire, je n'ai pas vu autant de foi dans Israël. Il y a quelque chose chez cet homme qui réagit à la présence de Christ, qui réagit à la nature de Dieu, qui fait que tout d'un coup, Dieu tourne le regard. C'est à chaque fois la même chose quand il y a des miracles, c'est frappant. C'est quelqu'un qui dit, oh fils de David, qui est monté à un arbre, pas pour attirer l'attention et faire le cacou, mais il veut quelque chose de cet homme qui est Christ, qui est Dieu incarné. Et le rapport qu'il y a entre Christ et nous stimule notre nature en Christ. On a des symptômes dans ce qu'on fait. On se dit, ah tiens, quand je fais ça, j'appelle ça le syndrome de la queue du chien qui bouge. Moi. Si vous mettez un chien de traîneau avec des moutons, vous allez avoir des... Parfois dans l'église, on est comme ça, on ne se sent pas à sa place. Mais mettez un chien de traîneau avec une meute de chiens de traîneau et de la neige, il va s'animer. Et on est animé par l'esprit lorsque l'esprit est en communion avec Christ. Il y a quelque chose dans notre nature qui se met à s'animer. Et la spécialité de qui on est, ça peut prendre toute une vie. Moi, j'avais prêché là-dessus et j'ai une personne qui est venue me voir après qui avait 80 et quelques, qui est arrivé presque en larmes en disant « Mais en fait, moi, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas quelle est la spécialité de ma terre. Je dis, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard pour commencer. » Mais identifier Christ, en identifiant Christ, on identifie qui on est. C'est notre identité qui est importante. Le Seigneur est ma force et mon chant. Si je vous dis, par exemple, en Alsace, c'est quoi la spécialité? Eh? Voilà. En Suisse, c'est quoi? Et Ragusa. Oh, je ne devrais pas le dire devant l'écran. Les chocolis, c'est ça. Au Québec, j'étais avec Christian Frappier. C'est quoi la spécialité au Québec? Voilà. À Bordeaux? Comment ça se fait qu'on est au courant de toutes les spécialités de toutes les régions et qu'on n'est pas au courant de la spécialité de notre église? De la spécialité de notre couple, de notre famille, de la spécialité de notre identité, l'identité de notre terre. Encore une fois, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'est le papier révélateur de la photographie de notre identité. Et je pense, ça c'est ma conviction personnelle, que quand Dieu attend quelque chose de nous, il attend ça. Qu'on soit dans l'exercice de la communion avec son fils bien-aimé, en qui il a mis toute son affection. Parce que cette affection-là, ce regard de Dieu, va stimuler en nous la spécialité de notre terre. Et il y a quelque chose, quand tout d'un coup, et ce n'est pas ce qu'on fait, mais souvent dans ce qu'on fait, on a des symptômes. Moi, à 18-19 ans, je ne savais pas ce que je voulais faire. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Hein. Alors finalement, on lit des brochures, des choses comme ça, mais un jour, il y a un gars, j'étais en apprentissage, j'étais destiné à devenir agent d'affaires, huissier de justice en France, quand les gens me connaissent maintenant en disant « Hein? Toi ?» Parce que mon père connaissait quelqu'un, donc je faisais mon apprentissage chez un huissier, un agent d'affaires, et le chien de traîneau avec les moutons. Il y a toujours un petit truc qui va vous parler. Mais un jour en classe, on avait un jour et demi par semaine de cours, il y a un gars qui me dit « Tu veux pas faire du théâtre, toi ?» Et tout de suite, c'est la première fois de ma vie, je crois que je répondais oui sans avoir à réfléchir. Pour les coups de cœur, c'est comme ça aussi. Hein. Au niveau de la musique, il y a des couples qui se forment comme ça, qui à un moment donné, tu dis « C'est ça, la tête. » C'est l'évidence de quelque chose, c'est en écho à quelque chose d'autre. On réagit à une parole et on répond oui. Avec Dieu, c'est la même chose. Et quand on répond oui, toute ma vie a changé à partir de cette seconde-là, où tout d'un coup, c'est comme quand on lit la Bible, hein. Vous pouvez lire un passage 20 000 fois, et tout d'un coup, dans une situation X ou Y, quelque chose vient vous parler. Et ce n'est pas juste important pour notre édification personnelle, et je vais arriver à ma synthèse étoilée. On lit dans le psaume 40 que beaucoup de gens connaissent. Il a mis, au verset 3, parfois c'est le verset 4 dans certaines versions, c'est pas toujours pareil, et il a mis en ma bouche un nouveau cantique, qui est la louange de notre Dieu. Il a mis dans ma bouche un nouveau chant, une nouvelle spécialité de ma terre, c'est-à-dire la spécialité renouvelée. Il y a ça aussi qui se passe. Quand on est renouvelé dans sa vie, quelque chose se passe qui est une louange à notre Dieu. Plusieurs verront cela et ils craindront et se confieront en l'Éternel. C'est quand même bizarre que Dieu mette un nouveau chant dans notre bouche et que les gens le voient. On serait dit, si on met un nouveau chant dans la bouche de quelqu'un, les gens vont l'entendre. Qu'est-ce qu'ils voient, les gens? Quand vous êtes renouvelé en Christ, ils voient que le Seigneur existe. C'est aussi bête que ça. Moi, j'ai passé des semaines et des mois avant de changer, mais au moment où j'ai changé, j'ai vu l'impact sur ma communauté, j'ai vu l'impact autour de moi avec des gens qui ne sont pas chrétiens, où ils se disent, c'est comme quand on tombe amoureux. Tout le monde le voit, en fait. Quelque chose a changé, c'est les rares situations, prêts à mourir pour quelqu'un d'autre. À part Christ, je ne connais pas d'autres situations. Il y a quelque chose qui change dans notre vie, où tout d'un coup, les gens le voient autour de vous. Ce n'est pas dans l'émotion de la chose. Ce n'est pas dans... c'est pas en fait d'avoir une grande gueule qui fait qu'on est perçu par les autres. C'est que le changement de notre identité, il n'y a rien d'autre que Dieu qui peut le faire dans la vie d'un homme. On peut décider de changer. Combien ici ont essayé de changer des choses? Et au pire, on y arrive par nos forces. Ça ne va pas rajouter une coudée à votre existence. Pas plus qu'à votre salut. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Et si nous sommes sauvés, c'est pour être établis sur le rocher dont on parlait tout à l'heure, le Shabbat, le repos de la réconciliation avec notre identité qui est en Christ. Dieu a mis un cantique nouveau dans ma bouche. Beaucoup le verront. L'Église est souvent tournée sur elle-même par rapport à nos besoins, et c'est normal, mais ce qui intéresse le Seigneur, c'est des âmes qui sont à l'extérieur de l'Église. Et si on n'est pas transformé par Dieu, les gens, vous savez ce qu'ils vont vous dire, vous le savez tous, ils vont dire « Ah, c'est super, c'est bien pour toi. Ah, c'est super, oui, moi j'ai un copain, moi j'avais un pote comme ça qui est décédé depuis, qui disait « Ouais, mais toi, attends, le curé, il m'appelait, parce que je crois en Dieu. » Croire en Dieu, dans sa tête, c'était être curé. Et il dit, oh, toi, t'es le curé, etc. Moi, j'aimerais bien avoir la foi, etc. Mais je ne l'impressionnais pas dans ma démarche. Ce qui l'impressionnait, c'est quand j'avais changé. Le changement est quelque chose qui est la marque de fabrique du Seigneur. Le renouvellement de votre intelligence va changer votre cœur. De l'abondance de votre cœur, votre bouche va parler. Et les gens verront que Dieu existe. Et ils auront de la crainte. Parce que si vous n'êtes pas transformé par Dieu, les gens ne croient. Si nous, on n'est pas en train d'incarner notre identité en Christ, qui c'est qui va le faire? C'est impossible. C'est impossible. On a une responsabilité d'Église dans la spécialité de qui nous sommes comme Église. Une responsabilité individuelle, même la famille, a quelque chose. Quand les gens voient l'identité forte de gens qui sont croyants, ils ont de la crainte. Et qu'est-ce que c'est marqué? Et ils se confieront en l'Éternel. Moi, j'ai beaucoup pensé que l'évangélisation, c'était faire des campagnes. Maintenant, j'appelle ça la sortie du village gaulois d'Astérix, vous savez. Tout d'un coup, il y a la porte de l'église qui s'ouvre, il y a une campagne d'évangélisation, on va fracasser du romain, et on revient, on fait une agape. Oh, super! Il y a eu deux convertis, ou peu importe. Mais il y en a qui sont venus à Christ comme ça, c'est très bien. Mais le vrai changement, c'est quand les gens voient un changement en vous, ça les incite au changement. Moi, je vois ça dans les reportages aussi. C'est vrai aussi dans la société. Tout le monde essaie de faire des nouveaux trucs, le nouvel iPhone, la génération 10S, 6B, 8, K9, machin truc. Et les gens se précipitent pour faire quoi ? Pour acheter du neuf. Sauf qu'au bout de 2 jours, c'est déjà plus assez neuf. Quand vous êtes renouvelé en Dieu, c'est neuf jusqu'à l'éternité, jusqu'à l'infini. Et ça devrait nous encourager. Acte 15, pour conclure, c'est lorsque Pierre témoigne du Saint-Esprit qui est en train d'agir au niveau des païens. Donc, je vérifie l'heure aussi parce que c'est sur mes photos, donc c'est l'heure d'avant-hier. Ouais, j'ai encore un petit moment là. Vous finissez à quelle heure ? C'est bon ? Je vais chanter un morceau de musique tout à l'heure. Vous savez ce qui se passe, si je suis honnête ? J'ai pendant longtemps essayé de prêcher comme tout le monde, moi. C'est-à-dire avec un pupitre, un verre d'eau, et puis suivre une structure avec en général 3 lettres, ça marche bien, 3 P pour que les gens se rappellent et des choses comme ça. Donc profitez, entre guillemets, aujourd'hui du fait que ce n'est pas comme ça, parce qu'en général, il y a des gens beaucoup mieux structurés que moi qui vont vous donner un message beaucoup plus construit, mais ce témoignage que je vous donne va modifier aussi quelque chose dans votre perception. Donc voilà, je ne suis pas en train de m'excuser, je n'ai pas à le faire, mais ça m'a pris 10 ans avant de dire, je suis quand même beaucoup plus naturel quand je suis le mouvement de ce que l'Esprit fait en moi. Quoi. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fait pas avec quelqu'un qui sera plus structuré. Souvent, on associe l'œuvre de l'Esprit à des choses plus originales, plus neuves, justement, mais ce n'est pas ça. C'est que quand on est dans la spécialité de sa terre, c'est là que ça a un impact. Et pendant longtemps, parce qu'on a des modèles, c'est comme David sur le champ de bataille, il voit les guerriers qui sont là, rassemblés autour d'un géant qui est en train de défier le peuple d'Israël. Son sang ne fait qu'un tour. Là, il aboie, en l'occurrence, il n'est pas en train de... Il dit, qu'est-ce que c'est que cet incirconcis qui est en train de défier l'armée d'Israël ? Et il est surpris de quoi, lui ? Que personne ne réagisse à ça. Dans sa nature profonde, il est déjà roi, il est déjà oint par Samuel, et il réagit en son esprit à une situation qui vient le confronter à son identité en Dieu. Et il finit, en fait, moi je prends souvent cette image, avec les habits du roi Saül, ça doit lui aller comme un tablier à une chèvre, avec les armes d'un autre, les habits d'un autre, avec les armes d'un autre et les habits de quelqu'un d'autre, vous n'allez jamais terrasser aucun géant. Vous allez ébranler les ténèbres lorsque vous y allez avec votre fronde, vos cailloux, parce qu'il connaît ça, David. Il a déjà massacré un ours, un lion avec ça. Ce que Dieu fait dans le naturel, dans les dons, il l'utilisera un jour ou l'autre. Moi, quand je vous dis que j'ai fait du théâtre, ce n'est pas que ça me sert maintenant, mais ça m'a servi à beaucoup de choses pour explorer différents types de personnalités. Je trouve que ça devrait être obligatoire, d'ailleurs. On devrait faire du théâtre obligatoire. Pour explorer différentes facettes, on ne sait pas vraiment qui on est. Alors évidemment, une fois qu'on découvre Christ, on a une vague idée de ce à quoi ça ressemble. Le papier révélateur. Donc, ce qui se passe pour Pierre, quand le Saint-Esprit descend sur des païens, vous imaginez le choc culturel. Ça doit être comme en 39-45, si tout d'un coup, dans un camp de concentration, tu avais des soldats allemands qui découvrent Christ, et tu as le Saint-Esprit qui leur tombe dessus. Quoi. Nous, on regarde avec nos yeux d'homme, ça doit être plus difficile pour le soldat que pour ceux qui sont en camp de découvrir Christ, ça a dû se passer, hein, j'imagine. Mais imaginez le choc quand les gens dont vous vous dites, « Ouais, ceux-là, si j'étais Dieu, lui peut-être. » Vous savez, les collègues de travail, il y en a qui sont sympathisants. On a des bons contacts et souvent on me dit « Ah, j'ai pu lui parler de Jésus, c'est super, etc. » Mais t'en as qui ne sont pas juste méchants, qui sont méchants exprès, qui veulent du mal. Et ceux-là, si ce n'est pas en esprit que vous les aimez, c'est impossible de les aimer. Tout en vous disent « Oh là là, lui... » Mais le jour où c'est ces gens-là qui vont découvrir l'Évangile, ça va être une leçon pour l'Église. Moi je pense, et je connais un peu mon Dieu, c'est qu'il va nous confondre dans notre intelligence en allant chercher les pires, ceux qu'on s'imaginerait déjà disqualifiés par rapport au salut. Et c'est eux qui vont venir nous apporter le message, c'est eux qui vont écrire des chants pour l'Église, et ça va être un choc. C'est exactement comme le salut qu'on a reçu, nous, hein, les goy, entre guillemets, les non-juifs. On est là aussi pour stimuler une jalousie chez les juifs. C'est que le Saint-Esprit qui nous est donné à nous, c'est comme ça que Pierre réagit. Il est obligé d'en débattre à Antioche, enfin à l'Église, parce que les gens ne sont pas d'accord. Mais c'est très proche de ce qui se passe au niveau de la spécialité de la terre, au niveau de ce que Dieu fait, et au niveau du fait qu'il le fait pour des gens qui ne connaissent pas Dieu. Il cherche ses enfants, Dieu. C'est dans sa nature profonde. Après cela, ah oui, non, c'est là. Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré à son nom. Objectif. Et c'est à cela que s'accordent les paroles des prophètes, selon qu'il est écrit. Après cela, je retournerai et rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé, je réparerai ses ruines et je le relèverai afin que le reste des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. Après cela, je retournerai, je relis le verset 16 et 17 de Acte 15, Acte 15, 16, 17, après que Simon a raconté comment Dieu a premièrement regardé les gentils pour en tirer un peuple consacré à son nom, après cela, je retournerai et rebâtirai le tabernacle de David qui est tombé, je réparerai ses ruines et je le relèverai afin que le reste des hommes recherche le Seigneur et toutes les nations aussi sur lesquelles mon nom est réclamé, dit le Seigneur qui fait toutes ces choses. Le Saint-Esprit tombe sur les gentils. Pierre, Simon en fait le témoignage et Dieu est cité dans ses prophéties où il rebâtira le temple qui était tombé afin que tous les hommes recherchent le Seigneur. Ici, il y a une petite explication, je trouve, qui fait qu'on se dit, mais quel est le lien entre l'Esprit qui est en train de tomber sur des non-juifs et le fait que des prophètes ont annoncé qu'en ces temps, Dieu relèverait la tente de David qui était tombée, il rebâtirait sur d'anciennes ruines, afin que le reste des hommes cherchent la présence de Dieu. Ben pour moi, c'est assez proche de ce qu'il y a dans le psaume 40 qu'on a lu tout à l'heure. C'est que Dieu nous donne un champ, il nous relève en fait. Il nous relève, il nous redonne quelque chose, il nous renouvelle dans notre relation, afin que le reste des hommes cherchent la face du Seigneur. En d'autres termes, quand il est question de la tente de David qui est tombée et qui est relevée par Dieu, pour qu'elle soit relevée par Dieu, il faut bien qu'elle soit tombée. Il y a quelque chose qui correspond à des épreuves par lesquelles on peut passer au niveau individuel. On est le temple du Saint-Esprit. Et il arrive que ce temple tombe. Cette tente qui accueille le Seigneur tombe. Dieu nous relève. Que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Mais parfois, il y a quelque chose dans notre vie, c'est terrible d'ailleurs. La traversée du désert, j'ai connu, mais il y a un moment donné, des compromis que j'ai faits sur des choses où je me suis dit jamais, moi, je vous donne un exemple, tous les musiciens à qui je bosse, à la fin des concerts, moi ce que j'aime à 23h, c'est ce que j'appelle la troisième mi-temps, hein, où tout d'un coup, on va manger, on débouche une bouteille, on refait le film, c'est super. Et avec le temps, a commencé à apparaître ce genre de choses, des tablettes, des PC. Donc les musiciens, après les concerts, ils disent « Ouais, je vais juste grignoter un truc, je vais aller me coucher. » Puis un jour, un musicien m'a dit « Attends, je vais aller me coucher. » Netflix, les séries et les compagnies. Donc à la place de fêter ensemble ce qu'on avait vécu pendant le concert, les musiciens disparaissaient les uns après les autres. Et en effet, j'allais pas coller mon oreille à la porte, mais vous pouvez être sûr qu'une demi-heure après, tout le monde était en train de regarder un DVD ou maintenant ce serait Netflix ou des choses comme ça. Et je ne sais plus pourquoi je raconte ça, d'ailleurs. Ça va me revenir. Oui, c'est ça. Bien. Je le vois qu'il prend des notes, c'est le pasteur, hein, c'est ça. Voilà, il est plus structuré que moi. Très bien, parce que c'est that's the point. C'est exactement ça. Donc, je me suis dit, jamais je ferai ça. Et maintenant, en fait, je m'endors avec un DVD. Moi, je suis devenu celui que je condamnais chez les autres. Et ça, c'est aussi des époques où on fait des petits... C'est pas grave en soi, tout le monde le fait, blablabla, il y en a qui lisent un bouquin, etc. Mais avant que je fasse ça, moi, quand j'allais me coucher, je faisais un bilan de ma journée, comme je le faisais après les concerts, et je passais du temps avec Dieu. Donc, ce n'est pas pour dire que ce n'est pas bien la télé, ce n'est pas bien Netflix, etc. Mais ces petits compromis qu'on fait, finalement, nous éloignent de cette présence au pied de Jésus. Et on va pallier par des actions, par plein de choses qui ne sont pas le syndrome de la queue du chien qui bouge, qui est juste l'obéissance. L'obéissance sans la joie, le service sans la joie, ça ne vaut pas grand-chose. Donc, je suis tombé. C'est une chose de le reconnaître. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose que je m'étais juré de ne pas faire. Et je le faisais devant Dieu. Hein. Je dis, Seigneur, eux, mais moi, un peu comme Pierre. Hein. Jamais. Au début de notre foi, on est comme ça. Je marcherai dans l'aube, au lever du matin, puisque le jour me sauve de la nuit qui s'éteint, puisque mon espérance se mesure à la foi que j'oppose au silence des ténèbres au-delà, et que mon cœur soit libre, mon amour incessant, que jamais ne dérive ma parole et mon chant, que sa main me soutienne, qu'il garde mes pas, que sa voix me parvienne et que son règne soit. Wouh ! Rien n'allait m'arrêter, messieurs, dames. Et je donnais des leçons à tout le monde. On disait, ouais, il y avait des séminaires comme ça avec des gens qui disaient, voilà, ceux qui veulent recevoir plus de Jésus, approchez-vous. Moi, je me levais à chaque fois, puis je me retournais, je me demandais comment des gens pouvaient rester assis. Quelqu'un veut-il plus de Jésus ? Il y a des gens qui restent assis ? Avec des gens qui me disaient, ouais, mais moi, au début, j'étais comme toi, tu sais, tout feu, tout flamme. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? C'est ça qu'on se dit au début. Maintenant, ce que le Seigneur me dit, il me dit, tu as perdu ton premier amour, Thierry. C'est pas un zèle infantile dont je parle. C'est quelque chose dans notre attitude où on croit ce message. On croit à sa puissance de transformation. On voit le résultat de notre vie, pas parce qu'on est tout feu, tout flamme, parce qu'on aime notre Seigneur et ça se traduit par la foi qui se traduit par des actes. Montre-moi ta foi sans les actes. Ce n'est pas de faire des choses, c'est de prendre le truc à l'inverse. C'est d'être animé par quelque chose. Et je pense que ça passe par la chute de tout ce qu'on a construit. Moi, j'appelle ça aujourd'hui la totémisation de Dieu. C'est que Dieu, c'était l'amour de ma vie. J'écrivais « Oh Jésus », je chantais « Oh Jésus, mon sauveur ». Des chants merveilleux qui venaient édifier ma foi. Mais il y a un moment donné, si je devais dire quelque chose, ça ressemblait plutôt à ça. J'avais dit que j'allais chanter une chanson. Tu vois, ça, je n'ai pas oublié. Alors, il y avait l'époque qui correspondait à...
Bondissez de joie, louez le Seigneur. Bondissez de joie, louez le Seigneur. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. Son amour infini n'a pas de fin et son règne éternel dure à jamais. La 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 la.
J'écrivais ça à moto en chantonnant. C'était sur un album d'Exo. Quelques années plus tard. Et il y a une honnêteté à avoir devant Dieu. Il y a un moment donné, je dis, Seigneur, il ne me parlait plus. Pendant 2 ans, j'écrivais plus de textes, mais ce n'était pas le plus grave. C'est que j'avais plus de rêves, j'avais plus de vision. Tout ce qui avait investi mon cœur et ma vie en Dieu sonnait comme une timbale retentissante. Quand il n'y a plus d'amour, c'est ça qui se passe.
Un silence plutôt que rien. Plus que l'ombre, sans le chemin, sans toi. Ton regard plutôt que rien. Je ne veux que l'amour. Ta lumière plutôt que tout. Tout le reste autour de tout ce qui n'est pas. Ta lumière et ton amour. Je ne veux que l'amour, et je ne m'encombre plus du vide de toutes ces choses en moi. Avide, je ne veux que ton secours en moi. Être là plutôt qu'ailleurs, autre part que dans ce cœur qui bat.
être moi sans avoir peur, conscient de t'avoir toi avec moi. Et je ne m'encombre plus du vide, de toutes ces choses en moi. Avide, je ne veux que ton secours, ton secours en moi. Et je ne m'encombre plus du vide, de toutes ces choses en moi. Avide, je ne veux. Ton secours en moi. Un silence plutôt que rien. Ce chant, je l'avais écrit après avoir lu pour une énième fois le passage où Élie se retrouve dans cette grotte. Et qu'il y a un tremblement de terre, et Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Pluie de feu du ciel, et Dieu n'était pas là-dedans. Et il y eut un doux murmure, dans ma version, c'est ce que j'avais. Et le renouvellement vient parfois d'une nouvelle version de la Bible. J'avais acheté une nouvelle Bible en disant, on ne sait jamais, c'est peut-être ça le problème, je me suis habitué à l'ancienne. On essaie de plein de choses. Et dans cette nouvelle version, au lieu que ce soit écrit, il entendit un doux murmure, un murmure doux et léger. C'était marqué, il entendit le son du silence. Je dis, mais c'est ça que j'entends depuis 2 ans, moi. Le silence. Alors je me suis dit dans un premier temps, c'est une excuse théologique pour justifier le fait que j'ai dû commettre le péché de trop. Dieu ne me parle plus, il s'est détourné de moi, il y a un silence assourdissant. Mais quand même, je me suis dit, ça vaut la peine d'explorer ça. Et on est quand même dans une société où il y a du vacarme tout le temps. Alors c'était déjà à l'époque, à 10-15 ans maintenant, que je vivais ça, assourdissant ce vacarme. Mais alors depuis 2 ans en France, je prends ma voiture. Quand on était confinés en France, le seul moment où je pouvais prendre ma voiture, c'était pour aller faire des courses. Et je mettais la radio. J'ai calculé en moyenne, c'était 10-15 secondes avant que j'entende un vaccin, un Covid, Omicron, toute la journée, etc. Et quand ce n'est pas la radio, c'est les gens qui t'appellent, t'as entendu parler du truc, mais pour trouver du calme à l'intérieur de ça, c'est important d'en parler aussi, parce que ça modifie quelque chose dans nos églises. Notre église, nous, c'est ça, on se retrouve ben, comme vous, là, avec des petits bandeaux. Vous êtes mignons avec vos petits bonnets bleus, là. J'ai l'impression d'être chez le dentiste. C'est un cauchemar, parce que s'il y a autant de dentistes qui viennent sur moi, il y a des gros problèmes. Mais ça modifie quelque chose. Mais là où ça n'a pas modifié quelque chose chez moi, c'est que ça faisait 15 ans que je bossais, puisque l'église n'avait pas l'air d'entrer dans le fait de défricher un champ nouveau. En plus, comme je suis filmé, ça se trouve, il y a des gens qui vont voir la prédication que je fais. Ils disent, oh, Thierry, qu'est-ce que tu leur racontes qu'on n'est pas entré dans le... Tant pis. Mais si j'étais là pour assister cette église-là, et que la vision, souvent c'est ça qui se passe, la vision c'est aussi la parole de Dieu. Si l'église n'est pas en train de vivre la communauté qu'elle est supposée être, vous pouvez assister tout ce que vous voulez, le truc tombe dans le vide. Et je me mets dans l'équation. Hein. C'est pour ça que c'est important de s'aimer les uns les autres, pour que les gens voient que nous sommes les disciples de Christ. C'est pour ça que c'est important. Moi, j'aime bien ce slogan que j'ai entendu, je crois que c'est Bethel, qui dit la culture de l'honneur. Honorer son voisin, c'est pas rien. Se regarder avec, dis donc, création de Dieu, ça. Est-ce que c'est vous qui avez fait Lazare ? Moi, j'étais là il y a plus de 15 ans pour le vernissage de mon album. Vous êtes toujours là. Grâce à vos efforts ? Non, parce que Dieu a voulu cette église ici. Chaque individu ici a été voulu par Dieu ici. Et vous avez une spécialité de votre terre. C'est plus facile de le voir quand on arrive de l'extérieur. Mais je vais d'église en église et c'est étonnant de voir comment une église a une identité propre. Et c'est important de le dire et de le prêcher, le syndrome de la queue du chien qui bouge, je ne vous rappelle que de ça, c'est qu'il y a quelque chose qui fait réagir l'église à son ADN en Dieu. Parce que vous pouvez faire plein de trucs et à un moment donné, ça va être le culte pour enfants, ça va être, je ne sais pas, ça dépend des ministères de l'église, ça dépend ce que Dieu y fait, mais tout d'un coup, toute l'église est mobilisée. Et les pasteurs, les responsables, moi je suis ancien dans mon église, je ne sais pas comment je suis arrivé là-dedans, mais le fait est, et on parle de tout ça, on essaie de trouver quelque chose qui motive l'église, mais la seule chose qui motive l'église fondamentalement, c'est la parole de Dieu, et ça dynamise les individualités propres. On peut faire plein de choses, des concerts, des trucs comme ça. Bon, de temps en temps, on fait quelque chose et toute l'église est embarquée. On a les 100 ans de notre église, là. Quand même, c'est pas rien, les gars. 100 ans, les gars. Et évidemment, on en profite pour aller voir la mairie, pour faire plein de trucs. On va faire un concert gospel. On va faire quoi ? Church gamer avec les jeunes. Il y a aussi un truc, un Zumba, là. Bref, le pasteur qui va faire de la Zumba, je vais juste voir ça. Et puis, c'est une occasion. Mais il y a quelque chose qui n'est pas tellement les 100 ans de l'Église, c'est que ça correspond à quoi ? À la fidélité de Dieu. 100 ans. Alors, il n'y a plus personne qui était là au début, mais l'Église est toujours là. Gloire à Dieu. On est planté dans un petit village. Au début, vous imaginez bien, c'était une secte. Tant que ce n'était pas ou catholique ou protestant, il y a toujours deux églises en Alsace. C'est étonnant d'ailleurs. Il y a l'Église protestante et l'Église catholique. Puis les autres, les sectes, ceux qui ne sont ni catholiques ni protestants. Donc c'est la fidélité de Dieu qui nous touche. Donc par rapport à ce chant, un silence plutôt que rien, j'avais jamais écrit des chants comme ça. C'est un matin, comme je vous disais, je me lève avec ma tasse. Sur ma tasse mug, c'est marqué « With God, all things are possible ». Avec Dieu, tout est possible. Et quand il n'y a rien qui se passe, je buvais mon café d'abord, après je prenais ma tasse et je montrais à l'univers entier, « With God, all things are possible. » Tout est possible avec Dieu. Alors pourquoi il ne fait pas ça ? Alors pourquoi il ne s'occupe pas de mon cas personnel ? Alors pourquoi il ne me donne pas des révélations ? Alors pourquoi ? Et c'est là qu'on commence à dériver sur la joie du salut qu'on a au début, l'amour premier qu'on a au début, et des choses comme ça. Ce n'est pas de la nostalgie, mais c'est quelque chose qui nous manque et on sait que ça nous manque. Et moi, je ne dirai plus à Dieu quelque chose qui n'est pas là. Des fois, on a l'euphorie d'un séminaire ou des choses comme ça, on a l'impression de retrouver le truc et ça ne dure pas parce que Dieu prend son temps avec son Église et avec ses fils et ses filles. Et on n'a pas l'habitude dans notre siècle. On a tout de suite sur Google, etc. Mais l'épreuve, je vous parle de 10-15 ans, etc. Et avant que Dieu me renouvelle et avant que je voie les fruits, je n'ai pas mon sac à dos ici. Depuis le début du confinement, je m'étais juré après Exo, moi du CIL, c'est bon, écrire des chants pour l'Église, au service de l'Église, je l'ai entendu la prédication. Si vous n'avez pas de vision, servez la vision de quelqu'un d'autre, tata, c'est vrai aussi, etc. Mais moi, mon cœur, c'est vraiment pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Je n'arrive même pas à comprendre que ce ne soit pas essentiel pour chacun d'entre nous dans l'Église. C'est Dieu qui cherche. Moi, on m'a dit, ouais, Thierry, tu n'aimes pas l'Église. Ce n'est pas que je n'aime pas l'Église. J'aime Dieu qui aime l'Église, mais Dieu est intéressé par ceux qui n'y sont pas encore. Nous, on a le salut. L'Évangile parle tout seul maintenant. En fait, il y a des gens qui ne savent même plus qui est Jésus. On enlève les crèches à Noël en France. J'ai une pote qui est prof de musique et qui a dit, les gamins qui ont 9-10 ans, ils chantaient les Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle All the Way au cours de chant. Puis à un moment donné, avec les anges de nos campagnes, elle a dit, vous êtes intéressé de savoir d'où viennent ces chants ? Ah ouais, madame, super madame. Et puis elle leur a parlé de Jésus qui est né, les rois mages, les trucs, le folklore en fait, et ils ne connaissaient pas. Donc l'impact de l'Évangile aujourd'hui, et surtout avec les nouvelles générations, vous n'avez qu'à parler de ce que vous avez lu le matin, c'est une bombe atomique dans leur vie. Ils n'ont aucune idée de ça. Avant, il y avait une vague notion que l'Église, c'était ça, puis que Jésus, puis les gamins disaient, c'est quoi maman, c'est la maison de Dieu, c'est avec le clocher et les petites cloches. On avait une notion comme ça. Maintenant, en fait, la plupart des gens ne sont même pas au courant de ça. Ça veut dire que vous parlez de l'Évangile, Ça va faire réagir les gens de toute façon, parce qu'il y a une opposition entre les ténèbres et la lumière. Mais l'évangile en lui-même, vous n'avez plus besoin d'essayer de trouver des méthodes pour en parler. Le fait d'en parler, si c'est vrai dans votre vie, si l'évangile a provoqué un changement de votre vie, ne vous amusez pas. Enfin, moi, faites ce que vous voulez. Mais moi, j'ai essayé de prêcher l'évangile quand j'avais aucune idée de ce que c'était. J'ai appelé ça après coup massacre à la tronçonneuse. Tous mes copains, quand je me suis converti, voyaient une bonne chose, c'est qu'il y avait eu un changement, mais je leur sortais des vérités bibliques que je n'avais même pas idée de ce que c'était. Il faut intégrer, il faut que la parole soit faite chair en nous. Et je dirais même, comme disait saint François d'Assise, je crois, il disait prêcher l'évangile, si nécessaire, utiliser les mots. Parce que la transformation qu'opère l'évangile dans votre vie, ce chant-là que je vous ai chanté, un silence plutôt que rien, c'est venu de ce matin, je vous disais ça avec ma mug, With God All Things Are Possible, où Dieu, après des années, des mois de silence radio, tout d'un coup, c'est comme s'il me parlait, il dit, si, tu fais quoi? Ça ne fait pas très biblique, hein, tu fais quoi? Quelqu'un, un ami pourrait me dire ça. Mais bon, ce n'est pas une voix audible avec un buisson ardent. Hein. C'est juste, je reconnais cette voix de quelque part. Hein, au bout d'un moment, on ne s'attend même plus à ce que Dieu réponde à nos prières quand ça fait 2 ans. Et je dis, ben, je fais quoi? Maggie, j'écris des chants, j'essaie d'écrire des chants de louange pour toi. By the way, with God all things are possible, by the way, lève-toi, défends ta cause, aussi à les psaumes, etc. Je fais, dans ma tête, je faisais ce qu'un chrétien fait, et c'est comme s'il me disait, et si tu ne faisais pas ça, tu ferais quoi? Et j'ai cru que j'allais lui sortir tout ce que j'avais abandonné pour faire ça. J'ai cru que j'allais lui dire, oh, ce que je ferais, j'irai voir des matchs de foot, ou je ne sais pas quoi, c'est pas que je ne vais plus voir de matchs de foot, ou que je ne regarde plus la télé, ou plus au film, mais j'ai abandonné tellement de choses pour me consacrer à Dieu, que je pensais que j'allais lui dire, voilà, ce que je ferais, moi, c'est ça, 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 tout ce que j'avais abandonné pour lui. Et en fait, j'ai fini par lui dire, la même chose, en fait. Mais j'écrirais pour les non-croyants, parce que je m'étais mis à écrire des chants de louange, parce que j'ai bien vu que l'Église a besoin de ces chants. Donc tu vois le besoin et tu fais quelque chose parce que tu vois le besoin. Mais au bout d'un moment, à force d'écrire des chants de louange, je ne savais plus écrire pour l'extérieur de l'Église. Et en fait, un silence plutôt que rien, ce n'est pas tellement ni un chant d'Église, ni un chant pour l'extérieur, c'est le témoignage du fait que cette parole, le doux murmure, le murmure doux et léger, ce que j'avais vécu dans mon temps avec Dieu, où j'avais compris, même pas avec une révélation particulière, que le son du silence, le doux murmure, c'était aussi ça. C'est qu'à un moment donné, dans ce monde de vacarme, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il y a une plage qui peut s'appeler le Shabbat, où il faut trouver du repos. Et à partir de et ça ne s'est pas passé du jour au lendemain, c'est que quand j'avais quelque chose qui était une rage, il y a même des moments où on a une révolte par rapport à Dieu. Pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Il y a un moment donné, quand vous venez du monde et que vous arrivez dans l'Église, pour ceux à qui c'est arrivé, vous découvrez des vérités et des façons de vivre qui sont à l'opposé de ce qu'on vous a enseigné, y compris dans votre éducation, et vous essayez de vous conformer à ce que les autres font. Et à ce que les autres vous disent, vous ne connaissez pas encore la parole, donc j'ai grandi petit à petit, mais il y a des moments où j'entendais des choses, je me suis dit, oh là là, ça n'a pas de sens. Si on te frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite, ça ne va pas la tête. Ben non, hein. Quand même, il y a une certaine dignité, etc. On comprend que, ouais, d'accord, on comprend ce que Jésus veut dire. Mais parfois aussi, il y a des enseignements ou des tendances qui ne correspondent pas, entre guillemets, à notre identité. Ce n'est pas de tordre les Écritures pour les faire correspondre à notre identité, mais c'est de comprendre quelle est la vérité biblique, la vérité qui est Christ, qui vient faire écho à votre identité. Ça prend du temps. Et il y a des moments, comme je vous l'ai dit, je me suis conformé à d'autres choses, j'ai fait des choses pour l'Église, alors que mon cœur bat et bat encore pour des gens qui sont à l'extérieur de l'Église. Là, maintenant, je ne sais plus quoi faire, mais je n'ai pas perdu ce cœur. Dieu a ses regards tournés vers des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne le connaissent pas lui, et c'est nous qui sommes les ambassadeurs de Christ. Si nous ne sommes pas renouvelés dans notre intelligence, si notre cœur n'est pas rempli au point de déborder, et de l'abondance du cœur, votre bouche parlera, et que les gens le voient, parce qu'ils voient que la parole que vous dites, C'est une parole de transformation dans votre vie. Ce n'est pas, entre guillemets, comme je vous l'ai dit, de prêcher l'évangile, forcément. C'est juste d'être à la place. Et quand ça ne va pas, vous dites à Dieu, ça ne va pas. Et moi, j'écris plein de chants que j'ai oubliés, d'ailleurs, parce que ça ne correspond à plus rien, où j'étais en colère. J'aurais pu faire du heavy metal ou de la punk musique. Le rap, j'ai essayé. Il y a un côté, ils ne sont pas contents, les rappeurs, hein, en général. Parce qu'ils vivent dans des situations douloureuses pour la plupart. Mais le chant de votre cœur, pas forcément au niveau d'un chant écrit, la musique, la spécialité de votre terre, le Seigneur est ma force et la spécialité de ma terre, c'est ça que les gens vont voir en vous. Ils vont voir que vous avez été changé. Et souvent, c'est ça d'ailleurs que les gens, nos proches nous renvoient, hein. Oui, il dit un peu n'importe quoi, nanana, mais il faut reconnaître qu'il a changé. Et ça va de gens qui avaient une vie de débauche. Il n'y a pas besoin d'avoir une vie de débauche pour que le changement se voit. Il est plus notoire chez ces gens-là, mais le changement de notre vie, c'était ça le message de ce matin, passe par des zones où votre tente a pu tomber. Si votre tente est tombée, sachez que Dieu la relève. Comment vous saurez que Dieu guérit si vous n'avez pas été malade? Comment vous saurez que Dieu restaure si vous n'avez pas été anéanti? Comment vous saurez que Dieu est fidèle lorsque vous ne l'êtes pas? Regardez à vous-même. Regardons aussi à ce qui nous empêche de suivre Christ. C'est pédagogique. Dieu nous met en face de nos entraves pour nous faire comprendre à quel point on est esclave de ces entraves et à quel point on a besoin d'être libéré, tous les jours. Ce n'est pas toujours grave, mais tous les jours, Dieu veut nous transformer. Je parlais hier dans ce séminaire sur la louange, que la louange, c'est pastoral aussi, c'est pédagogique. Quand vous introduisez un nouveau chant, il faut que les gens aient confiance en vous. Il faut que vous soyez assurés dans ce que vous avez à faire. C'est une position qu'il faut avoir. Dans la vie, c'est pareil. Si vous doutez de qui est Dieu, vous n'aurez pas ce que les gens devraient voir, c'est une autorité. Il y a une autorité qui vient dans le fait de savoir qui est Dieu. Et on ne sait pas qui est Dieu tant qu'on n'est pas en relation avec lui. Et vous avez ça dans votre vie. Vous avez sûrement des amis de qui vous pouvez dire « Ah, avec lui, je peux être moi-même ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'avec d'autres, vous ne pouvez pas? Ben non. Avec d'autres, on ne peut pas être soi-même. Si vous n'êtes pas vous-même avec votre meilleur ami, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ? Et combien de fois je me retrouvais, moi, dans des temps de prière où j'essayais d'adopter une posture qui n'était pas la réalité de ma vie. Parce qu'il faut parfois qu'on soit à terre pour arrêter de faire semblant qu'on a encore un truc à lui offrir. On n'a rien. Heureux les humiliés du souffle, dans la version que j'avais lue. Heureux les humiliés du souffle, car ils seront consolés. Heureux ceux qui mènent le deuil. En fait, c'est la panoplie du malheur si on ne garde pas ça sans Christ. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. On avait convenu avec Christian que s'il y avait à un moment donné un temps de ministère qui pouvait s'opérer, que ce soit un appel ou un temps de prière, on le ferait. Donc voilà ce qui se passe. J'avais l'air surpris, mais je suis arrivé au bout. Et je vais finir avec ce chant. Je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être. Et je veux être celui que tu veux que je sois. Celui que tu veux que je sois. Tu es le maître. Tu es le maître de tout mon être. De tout mon être. Je bénirai ta sainteté. Je bénirai ta sainteté. Je veux renaître. Je veux renaître. Je veux connaître. Je veux connaître ta plénitude et ta bonté. Ta plénitude et ta bonté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître, tu es le maître. Et je veux être, et je veux être celui que tu veux que je sois. Celui que tu veux que je sois.
Alléluia. Je pense que c'est bien qu'on puisse juste faire une pause, comme on l'a dit, faire un temps de Shabbat maintenant. Il y a beaucoup de choses qui ont été partagées et je pense que c'est vraiment un message pour l'Église, ce que nous partage Thierry. Il y a beaucoup de richesses qu'il a partagées, beaucoup de vérité, de profondeur. Qu'on puisse juste maintenant s'arrêter, je trouve, en tant qu'Église et en tant qu'individu, pour recevoir cette parole maintenant. Qu'on puisse juste prendre ce temps avec le Seigneur. Moi, ça m'a parlé ce matin, ce qu'il a partagé. Et je suis sûr que ça a touché le cœur de beaucoup ici ce matin. Et j'aimerais pas qu'on puisse repartir ce matin juste en disant « Ah, c'était bien, ça m'a touché, j'ai bien rigolé, c'était vrai. » Mais qu'on puisse prendre un temps avec le Seigneur maintenant. Qu'on puisse juste apporter, comme il a été dit ce matin, notre terre dans l'état dans lequel elle est ce matin. Notre cœur dans l'état dans lequel il est ce matin. Je crois que le Seigneur veut juste parler à plusieurs ce matin. Il y a cette année 2022 qui est devant nous, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Mais le Seigneur est là ce matin et c'est ce qui compte. Et le Seigneur aimerait que tu redonnes cette terre. Tu redonnes, dans ma traduction c'est écrit « ressources » aussi. Le champ, tes ressources sont en Dieu. Et le Seigneur aimerait que tu redonnes cette terre à Dieu, tes ressources, pour qu'il puisse te renouveler ce matin. Alors qu'on est en train de juste réfléchir ensemble, juste se placer devant Dieu, qu'on a les yeux fermés, j'aimerais prier pour vous encore ce matin. Alléluia. J'aimerais prier pour chacun d'entre vous. Et ce n'est pas pour moi un appel seulement individuel, c'est un appel pour tous ce matin. Alors j'aimerais vous inviter, si vous êtes d'accord, à vous lever et j'aimerais prier pour vous ce matin. Amen. J'aimerais prier pour chacun d'entre nous, pour chaque génération. J'aimerais prier pour qu'on soit jeune ou moins jeune. Ce n'est pas ça qu'il faut regarder ce matin, c'est notre cœur devant Dieu. Et le Seigneur veut faire une œuvre nouvelle aujourd'hui. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Seigneur, tu vois chacun ici ce matin, Seigneur. Tu connais la situation de chacun. Tu sais par quel moment chacun passe ce matin, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais que par ton Saint-Esprit, maintenant, tu viennes souffler sur ces cœurs, souffler sur ces situations de vie. Tu viennes souffler, Seigneur, pour qu'on puisse être comme on l'a entendu ce matin, pas être à l'arrêt, mais qu'on puisse être vraiment ce cœur qui vibre ce matin, un nouvel amour, un nouveau souffle, un renouvellement maintenant au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi comme on l'a entendu ce matin. Et peut-être ce matin, la seule parole que quelqu'un peut dire c'est « j'ai besoin de toi ». Alors ce matin, je te dis, moi-même aussi j'ai besoin de toi. En tant qu'Église, nous avons besoin de toi. Viens ranimer, viens souffler.